BW. Magazine Santé.
Au menu du magazine Santé cette semaine, nous continuons de nous intéresser aux métiers du secteur de la santé, qui sont les hommes et les femmes qui prennent soin de nous quand nous n'allons pas bien. Aujourd'hui, zoom sur le secteur des urgences avec notamment les organisations internationales qui œuvrent sur le terrain en temps d'épidémie ou pas. Carole Assignon, micro, vous écoutez le magazine Santé. Présentes dans plusieurs pays à travers le monde, les organisations internationales qui œuvrent dans le secteur de la santé et mènent des opérations d'urgence. Ces opérations qui viennent en général en appui aux systèmes sanitaires locaux sont d'autant plus importantes, surtout en période d'épidémie, comme c'est le cas actuellement avec le coronavirus COVID-19. Isabelle Le Gall est chargée de gestion de projets hospitaliers dans les différents pays où Médecins sans frontières intervient. Elle nous explique comment s'organise ce genre de mission et les règles à respecter, notamment en période d'épidémie.
Il y a les règles d'hygiène de base, ça de toute façon, que ce soit en temps épidémique ou d'une manière classique, il y a un certain nombre de règles d'hygiène, de précautions standard de base à respecter, hein, le lavage de mains, l'organisation des soins, le respect des protocoles d'hygiène. Ça, c'est des choses qui sont en place dans toutes nos structures, mais comme un peu partout dans le monde, c'est toujours compliqué déjà à pouvoir le respecter à tout moment. Et après, lorsqu'il y a une épidémie, en fonction du risque, il y a des précautions complémentaires, donc des équipements complémentaires qui doivent être apportés. Et c'est aussi ceux-là aujourd'hui qui sont compliqués à obtenir, puisque d'une manière mondiale, il y a une pénurie aussi de protection complémentaire. Donc je parle des surblouses, des masques. Et donc ça, c'est aussi un autre enjeu pour nous aujourd'hui, d'être capable de pouvoir équiper nos soignants, nos équipes.
Est-ce que ces enjeux varient également d'une région à l'autre? Est-ce que c'est plus pratique, plus facile d'avoir accès à certains équipements, à certaines choses d'un pays à l'autre?
Ça va être variable effectivement en fonction déjà des stocks qu'on avait nous sur place par rapport à notre activité régulière. Donc il y a des projets qui avaient déjà en stock un certain nombre de masques ou de surblouses parce que dans les activités qu'on menait, on avait déjà besoin de ces équipements. Et après, il y a aussi des possibilités parfois d'achat local en fonction des régions dans le monde. Mais après, pour un certain nombre de nos pays, par exemple, en Afrique, l'achat local est compliqué et l'approvisionnement international est aussi très compliqué vu qu'il y a très peu de possibilités d'achat d'abord et après de cargo pour envoyer des équipes. Essaye de que ça soit en Centrafrique, au Tchad ou tout autre pays.
Alors, vous avez parlé tout à l'heure de la Centrafrique. Hein. Vous avez été chef de mission pour MSF dans un certain nombre de pays, dont justement la Centrafrique. Et c'était à une époque où le pays traversait une crise politique et était en proie à l'instabilité et aux violences. Comment on arrive à fournir des soins de santé aux populations dans un tel contexte?
Déjà, on n'est pas seul. Il y a souvent plusieurs sections de Médecins sans frontières, d'autres acteurs. Et donc, on voit tous ensemble qui a les moyens de répondre à quelle urgence et dans quelle région du pays. Malheureusement, on est obligé de faire des priorités opérationnelles, des choix en fonction des informations qu'on a, la gravité de l'urgence et ce qu'on va être aussi capable, nous, opérationnellement, de pouvoir faire avec les moyens, que ce soit matériels et humains, qu'on dispose à ce moment-là. Donc ce qui est très important dans ces situations-là, c'est d'être au fait de toutes les informations, qu'elles soient au niveau bien sûr épidémique, médical, quelles sont les problématiques, quel est le manque, le problème d'accès aux soins, et puis aussi un facteur qui est non négligeable, c'est la sécurité. Et lors des problématiques sécuritaires en Centrafrique, ça va avoir un énorme impact aussi sur décider où est-ce qu'on va pouvoir intervenir sans pour autant exposer nos équipes au niveau sécurité. Donc c'est un équilibre à trouver entre être capable de répondre rapidement à la crise, aux besoins médicaux, tout en maintenant, garantissant la sécurité de nos équipes nationales et internationales lorsqu'elles vont se déplacer pour intervenir à tel ou tel endroit.
Alors, dans ce contexte, est-ce que la coopération avec les acteurs locaux est très importante également ?
Que ça soit en temps de crise ou en temps de calme, il est très important d'être en relation constante, permanente avec tous les acteurs locaux, que ce soit le ministère de la Santé ou les autres partenaires locaux internationaux, pour justement être au mieux, au plus complémentaire dans nos actions et puis pouvoir échanger au jour le jour les problèmes, les problématiques et définir à chaque fois nos axes d'intervention.
Un mot sur les rapports avec les populations sur place qui sont bénéficiaires de l'aide sanitaire. Est-ce que les équipes sont en général bien accueillies ou est-ce que les relations sont parfois tendues?
Ça va être très très différent en fonction des régions dans le monde, en fonction de si on est déjà dans le pays depuis plusieurs années. Ceci étant dit, c'est un travail quotidien, journalier de l'équipe terrain, du coordinateur de projet, du chef de mission et de toute son équipe, de maintenir une communication étroite avec la population pour leur expliquer en permanence qui on est, qui on soigne, à expliquer aussi nos axes d'intervention. Donc en général, c'est vraiment sur des activités de soins, que ça soit dans un hôpital, dans un centre de santé, dans des cliniques mobiles. Même dans les régions où MSF est bien accepté, bien perçu, on doit rester vigilant et continuer vraiment un lien, une communication permanente avec la population pour vraiment bien leur expliquer ce qu'on fait, pourquoi on le fait et comment on le fait, et éviter qu'il y ait des rumeurs sur éventuellement ce qui pourrait se passer au sein de nos hôpitaux, par exemple.
C'était les explications d'Isabelle Le Gall, chargée de gestion de projets hospitaliers à MSF. On va se rendre à présent au Sénégal. Là-bas, le service des urgences et ouvertures de l'ONG médicale humanitaire à Lima est un service pas comme les autres. Il est logé à l'extérieur du centre hospitalier universitaire de Fan, dans un autre quartier de Dakar, d'où est coordonné le travail du personnel soignant du Covid-19 sur le terrain. Notre correspondant à Dakar, Robert Adé, nous fait le portrait du chef de ce service, Nicolas Mouly.
C'est toujours important d'avoir un esprit de solidarité et de travailler ensemble pour apporter une assistance médicale à ceux qui sont dans le besoin et aux populations les plus vulnérables.
Nicolas Mouly n'est pas médecin. Il est responsable du service des urgences pour l'ONG médicale humanitaire à Lima, au Sénégal.
Oui, elle est à l'intérieur, dans le couloir, dans cet espace.
Tous les jours, dès 8h du matin, il coordonne en direct depuis son bureau situé à Ngor sur la route de l'aéroport Léopold-Sédar Senghor les activités des différentes équipes qui interviennent sur le terrain, aussi bien au Sénégal, au Burkina Faso, en Guinée qu'en République démocratique du Congo.
On a des équipes sur le terrain qui apportent tout le nécessaire pour répondre aux besoins de la population et pour collaborer avec les ministères de la Santé. Nous ici, au service des urgences au niveau du siège, on définit avec les équipes quelle serait l'approche opérationnelle et la stratégie la plus pertinente en fonction des besoins. Une fois qu'on a défini cette stratégie-là, les équipes terrain vont être dans la mise en œuvre et nous, ici au siège, on va essayer de leur apporter tout le support dont ils ont besoin pour pouvoir soigner les patients.
Ce diplômé en droit international et sciences politiques a déjà fait ses preuves dans la gestion de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest entre 2014 et 2015. Les crises nutritionnelles au Niger, les urgences liées au déplacement des populations et aux réfugiés burundais en Tanzanie, dans l'état du Borno, au Nigeria et au Soudan du Sud. 2 mois après la confirmation du premier cas de Covid-19 au Sénégal, Nicolas Mouly ne désespère pas face aux difficultés liées à la gestion de cette pandémie.
Nos deux grandes difficultés, c'est l'approvisionnement en matériel médical, en concentrateur d'oxygène. Et la deuxième grosse difficulté, c'est vraiment le mouvement du personnel médical ou logistique expérimenté dans la gestion de ces épidémies, qui est indispensable pour apporter leur savoir-faire auprès des équipes terrain et qui pour le moment nous limite finalement beaucoup pour passer à l'échelle et pour avoir une réponse de qualité. Alors on a la chance de pouvoir compter sur des équipes nationales qui sont disponibles et qui sont très compétentes.
Bien avant le Covid-19, Nicolas, 29 ans, était habitué depuis 2014 à travailler en situation d'urgence, donc toujours sous pression. Par contre, ce qui a changé dans son travail au quotidien et qui l'a marqué, c'est la restriction de la mobilité humaine et la forte médiatisation de cette crise sanitaire.
Je ne peux pas rentrer chez moi. pour le moment, puisqu'il n'y a plus de vol. On a cette responsabilité d'être flexible finalement sur nos emplois du temps, sur l'organisation de nos vies privées. Et il y a très très peu de présence d'experts internationaux auprès des gouvernements pour apporter expertise et solutions. Ils ne sont pas là parce qu'ils ne peuvent pas bouger. Par contre, en contrepartie, un fait plutôt positif, c'est que le partage de l'information est très répandu. Il y a énormément de publications de scientifiques du monde entier ou alors des leçons apprises qui sont partagés via tout un tas de plateformes digitales qui permettent d'apprendre en permanence sur le coronavirus et pouvoir avancer, pouvoir développer de nouvelles stratégies.
L'épidémie n'a pas d'horaire. Les patients arrivent à n'importe quel moment et nous travaillons 24 heures sur 24, des fois en mangeant loin de nos parents. Balbutie Nicolas, nostalgique, la voix chargée d'émotion. Derrière nous, dans la salle de réunion du service des urgences, ses collaborateurs s'impatientaient. Il a eu juste le temps de dire son espoir pour l'avenir, celui de voir les recherches médicales et scientifiques qui foisonnent dans l'ensemble des pays du monde apporter des solutions concrètes pour un traitement efficace et rapide contre la propagation du nouveau coronavirus. Robert Adé, à Dakar, pour la Dutu Velu.
Vous écoutez le magazine Santé, un petit rappel à présent.
Covid-19, règles et conseils. Se laver fréquemment et soigneusement les mains. Évitez au maximum de se toucher les yeux, le nez et la bouche. Respectez les règles élémentaires d'hygiène. Éternuez et toussez dans un mouchoir à usage unique, jetez-le immédiatement ensuite. Si vous n'avez pas de mouchoir, utilisez le pli de votre coude. Évitez les grands rassemblements, les activités non indispensables. Maintenez une distance d'au moins 1 mètre avec les personnes qui vous entourent. Saluez sans se serrer la main, évitez les embrassades. Évitez de fréquenter des personnes fragiles. Si vous ne vous sentez pas bien, restez chez vous. En cas de fièvre, de toux et de problèmes respiratoires, appelez votre médecin. Évitez tout contact inutile avec les animaux sauvages. Pensez à suivre les instructions des autorités sanitaires de l'endroit où vous vivez.
C'est avec ces conseils que nous arrivons au terme de ce numéro du magazine Santé. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous.